Et c'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Condamné à la prison à vie, Ratko Mladic, surnommé le boucher des Balkans, fait appel. À Belgrade, le président serbe invite ses compatriotes à regarder vers l'avenir. Nous appellerons notre correspondant Laurent Rouy. Régler le conflit syrien exigera des concessions de toutes les parties, estime Vladimir Poutine. Mais pour le président russe, qui reçoit ses homologues turcs et iraniens à Sotchi, une vraie chance de mettre fin à cette guerre civile est apparue. Nous irons à Moscou. Le Front National, dont plusieurs comptes ont été clôturés, porte plainte pour discrimination contre la Société Générale. Avec Ludovic Piétenu, nous reviendrons sur la question du financement des partis politiques. La semaine de 4 jours sera majoritaire à la rentrée prochaine dans les écoles publiques. Des maires expliquent leur choix au micro d'Hakim Kasmi. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a donc condamné Ratko Mladic à la réclusion à perpétuité. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie est reconnu coupable de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre pour son rôle dans les massacres et le nettoyage ethnique durant la guerre de Bosnie. Le fils de Ratko Mladic a indiqué que son père, âgé maintenant de 74 ans, allait faire appel, estimant cette peine injuste et contraire aux faits. Depuis Belgrade, Laurent Rouy s'est intéressé aux réactions suscitées par cette condamnation.
Au cimetière mémorial de Potočari, l'association des maires de Srebrenica, qui regroupe les femmes des victimes du massacre, ont organisé une projection publique du verdict de Ratko Mladic, l'ancien général des Serbes de Bosnie, responsable du massacre de Srebrenica et du siège sanglant de Sarajevo, entre autres. Beaucoup d'émotions à l'énoncé du verdict et des cris de joie. Mais en dehors du cimetière mémorial, peu de réactions étaient visibles parmi la population. Il y a eu quelques affiches à la gloire de Mladic placardées à la va-vite à Srebrenica et dans la petite ville voisine de Bratunac, alors que dans la partie serbe de Sarajevo, une association d'anciens combattants de Serbes de Bosnie a manifesté contre le verdict et a appelé à protéger la République serbe. Ailleurs, les habitants de Bosnie n'ont pas montré grand intérêt pour le verdict, même s'ils sont à l'évidence divisés. Pour les Bosniaques, la condamnation est méritée, alors que pour beaucoup de Serbes, la condamnation de leur général est honteuse, car, disent-ils, Mladic n'a fait que prendre leur défense. Du côté des réactions officielles, le président des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, un nationaliste, n'a pas manqué de s'exprimer bruyamment. Pour lui, Mladic est un héros qui a sauvé son peuple, le tribunal pénal est un instrument politique, et les victimes serbes ont aujourd'hui été tuées une deuxième fois. Tandis que côté bosniaque, pour le membre du Conseil des ministres Denis Zvizdic, le verdict prouve que le crime ne paie pas. Au final, le jugement met à jour, et une fois de plus, les divisions profondes entre populations en Bosnie.
Des crimes contre l'humanité, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron qualifie la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. Le chef de l'État demande la réunion express du Conseil de sécurité des Nations Unies pour aborder cette question. Et il ajoute, il faut que nous puissions aller beaucoup plus loin pour démanteler les réseaux de trafiquants. Trois présidents réunis dans le sud-ouest de la Russie pour discuter de l'avenir de la Syrie. Après avoir rencontré Bachar el-Assad lundi, Vladimir Poutine reçoit le turc Recep Tayyip Erdogan et l'iranien Hassan Rouhani à Sotchi. Vladimir Poutine pose les conditions de la restructuration politique du pays. Pour lui, il n'est plus question pour l'instant du départ du président syrien, remis au centre du jeu par le Kremlin. Mais il faudra que tout le monde accepte des compromis. Les précisions de Claude Bruyot à Moscou.
Après avoir souligné une fois encore la réussite de sa stratégie militaire sur le terrain, Vladimir Poutine s'est empressé aujourd'hui de poser les conditions d'un succès diplomatique. « Rien ne sera possible, a dit le président russe, sans concession et compromis de la part de toutes les parties. » On peut clairement comprendre que son action dans les prochaines semaines va consister à obtenir, voire à arracher ses concessions. Au centre du jeu, Vladimir Poutine a su replacer Bachar al-Assad de façon spectaculaire, une semaine seulement avant la reprise des négociations à Genève, cette fois en présence de l'opposition syrienne. Enfin tacticien, le président russe a pris également soin de rajouter que ce sera au peuple syrien lui-même de décider de son futur. En clair, la tenue d'élections fonctionnera comme une garantie de reconstruction politique. Ce positionnement central de Vladimir Poutine, qui s'accompagne de références à l'ONU, d'une intention marquée à relever les défis humanitaires, vient clôturer 3 jours d'une véritable offensive diplomatique. En 72 heures, le maître du Kremlin a directement échangé avec de nombreux acteurs de la question syrienne. Les semaines qui viennent diront s'il a su les convaincre tous.
Des négociations sont également en cours à Riyad. Les principales factions de l'opposition syrienne tentent d'unifier leur position. Quelques 140 dissidents syriens ont répondu à l'invitation du ministre saoudien des Affaires étrangères. Mais en dépit de ces efforts diplomatiques, la guerre n'est pas terminée, rappelle l'ONG Médecins du Monde. La situation humanitaire reste très critique en Syrie. Malgré les accords d'Astana favorisant l'établissement de zones de désescalade, les bombes continuent de s'abattre sur le pays. Écoutez Jean-François Corti, directeur des opérations internationales de Médecins du Monde, il appelle à ne pas oublier les civils.
On a l'impression, en termes de communication, que la situation s'améliore en Syrie pour les civils. Et ce que l'on observe sur le terrain, c'est que malgré tout, la guerre continue, qu'elle continue à faire des ravages et que ce sont les civils qui en payent un lourd tribut. Les derniers chiffres des Nations Unies qui viennent de sortir rappellent que c'est toujours 13 millions de personnes qui nécessitent une aide humanitaire. C'est près de 5 millions qui ont besoin d'une assistance d'urgence. Et puis, les bombardements continuent intense sur différentes provinces, que ce soit Idlib, Alep, Raqqa, Homs, Hama, et on sait que beaucoup de civils ont péri. Sur l'année 2017, on a comptabilisé près de 3000 personnes, dont 1000 civils, qui sont morts du fait de ces bombardements indiscriminés. Donc, pour Médecins du Monde, c'est important de rappeler que la situation est dramatique en Syrie, que les hôpitaux, les centres de santé, les soignants sont toujours des cibles, dans le cadre d'une stratégie de guerre qui consiste à tuer ces soignants, et que donc le droit humanitaire international n'est toujours pas respecté. En plus des démarches diplomatiques conséquentes et nécessaires, il faut qu'il y ait une traduction sur le terrain pour les civils en termes de protection, ce qui n'est pas observable encore aujourd'hui.
Jean-François Corti, joint par Valérie Crova. À peine rentré à Beyrouth, le Premier ministre libanais Saad Hariri a suspendu sa démission. Il va maintenant engager des consultations sur des dossiers sensibles comme celui du Hezbollah, allié de l'Iran et impliqué dans des conflits régionaux. À l'annonce de l'arrivée de Saad Hariri, des centaines de ses partisans se sont retrouvés devant son domicile. Reportage à Beyrouth d'Omar Waman.
Ils sont venus par centaines en bus, voiture, moto, le drapeau bleu du courant du futur, le parti de Saad Hariri sur les épaules. Lara, une trentaine d'années.
Je suis venu pour dire merci à Saad Hariri parce que nous voulons l'unité du Liban et pas la division. Je suis là pour dire que je veux vivre dans un pays en paix, une paix solide où mes enfants vont pouvoir grandir. On veut la stabilité.
La démission en suspens, Saad Hariri va désormais devoir négocier avec le Hezbollah pour le pousser à faire des concessions. Selon Abdul Salam, un étudiant, la milice chiite ne fait pas partie de la solution mais du problème.
Nous sommes venus car nous sommes d'accord avec Saad Hariri. Il faut désarmer le Hezbollah, car ces armes n'ont fait que nous poser des problèmes. Elles apportent la guerre au Liban et nous ne voulons pas de cela. Nous sommes un peuple pacifique. Le Hezbollah est le principal problème. Il faut qu'il se débarrasse de ses armes. Voilà ce que nous voulons.
Certains sont venus de loin pour vivre ces instants. Randa, native de Tripoli, dans le nord du Liban.
Je pleure parce que je suis heureuse. Notre Premier ministre est en fin de retour. Il représente tous les Libanais. Maintenant, il faut trouver une solution pour sauver le Liban.
Sauver le Liban de ces vieux démons, c'est la tâche difficile qui attend Saad Hariri et l'ensemble de la classe politique libanaise.
Omar Waman, notre correspondant au Liban. Parlons maintenant d'une guerre oubliée, ignorée, mais qui a encore tué plus d'une centaine de personnes en 2016. C'est le Haut-Karabakh, cette région que se disputent l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce conflit n'est toujours pas réglé et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, déclarait hier qu'une issue pacifique n'était pas encore pour demain, même si Moscou essaye de réactiver des négociations de paix avec l'appui de Paris et de Washington, Nadine Epstein.
Et le président de l'Artsakh du Haut-Karabakh assure que les menaces de l'Azerbaïdjan sont quasi quotidiennes, mais il ajoute aussitôt que son rêve et celui de son peuple d'être libre et indépendant étaient en route, même si le chemin risque d'être encore long. Aucun traité de paix n'est signé. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a fait 30 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés. Privée de reconnaissance internationale, cette province, peuplée majoritairement par des Arméniens, se développe grâce aux relations citoyennes. Ainsi, cette semaine, Villeurbanne et Alfortville ont signé une charte d'amitié avec le Haut-Karabakh, l'Artsakh, en présence de son président Bako Saakian.
Un peu partout dans le monde, des collectes de fonds sont organisées en faveur de la reconstruction de l'Artsakh, de notre pays, sous forme d'un phonéton. Et hier, j'ai pu rencontrer les bénévoles qui faisaient des appels pour collecter des fonds en faveur de la reconstruction de l'Artsakh. Il y a eu des changements depuis l'indépendance de notre pays, il y a 26 ans. Tout ce que nous avons pu effectuer pendant ces 26 dernières années sont caractérisées par le fait que nous l'avons fait par notre travail et dans une totale liberté dont nous étions privés durant l'époque soviétique parce que nous étions placés contre notre volonté sous une juridiction qui nous discriminait. Puisque notre pays, notre république n'étant pas encore reconnue par la communauté internationale, les canaux classiques d'aide, de subvention, d'aide internationale n'est pas tout à fait pareil dans notre pays qu'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous tentons aussi saisir des opportunités sous forme de solidarité, aide, et c'est dans ce contexte qu'il faut placer également cette aide que la diaspora arménienne apporte à la reconstruction de l'Artsakh.
La traduction du président est assurée par son représentant en France, Ovanès Gevorkia, qui compte sur la France au sein du groupe de Minsk, qui comprend aussi la Russie et les États-Unis, pour aider à conclure une paix définitive dans le Sud-Caucase.
Nadine Epstein, l'ancien vice-président du Zimbabwe, évincé du gouvernement le 6 novembre, est rentré dans son pays et dès son arrivée à Harare, il a rencontré le bureau politique du parti au pouvoir. Maintenant que Robert Mugabe a démissionné, la voie est libre pour Emmerson Mnangagwa. Il doit être investi président après-demain. Le Brexit plombe le budget britannique. Le ministre des Finances, Philip Hammond, a présenté le projet de budget devant le Parlement. Il prévoit une forte augmentation du recours à l'emprunt dans les 10 prochaines années. On retrouve notre correspondant à Londres, Antoine Gignot. Bonsoir.
Bonsoir.
Les prévisions de croissance du Royaume-Uni ont dû être revues à la baisse, Antoine.
Oui, l'objectif, c'était une croissance proche de 2% du produit intérieur brut. Elle n'atteindra probablement pas plus d'1,4% l'an prochain. Pire, l'organisme indépendant chargé d'évaluer les performances du Royaume-Uni ne prévoit aucune amélioration de la productivité. Difficile dans ce contexte d'annoncer des réformes. Philip Hammond, le ministre des Finances, met en avant des mesures pour aider les jeunes travailleurs, une hausse du salaire minimum, une carte de transport pour les 26-30 ans, le gel du prix de l'essence et la suppression d'une partie des taxes pour les ménages qui achètent leur premier logement. Il insiste aussi sur le montant de l'enveloppe destinée à aider les hôpitaux, les médecins, les infirmières, près de 3 milliards d'euros, dont 430 millions dans les prochaines semaines, pour que le système de santé continue à fonctionner. Un montant qui reste tout de même très éloigné des 400 millions par semaine que promettaient les partisans du Brexit pendant la campagne électorale. Les Britanniques se consoleront avec l'encadrement des taxes sur la bière. Elles n'augmenteront pas, précise Philip Hammond, avant d'ajouter « Joyeux Noël ». Réaction de colère. À gauche, Jeremy Corbyn, le chef de file des conservateurs, explique que les ménages les plus modestes ont été oubliés et il s'emporte. À Noël, dit-il, 120 000 enfants dormiront dans des hébergements provisoires. Commentaire lapidaire également du côté des libéraux-démocrates. Le ministre des Finances aurait pu tout aussi bien se rasseoir après avoir donné les chiffres de prévision de croissance, explique Vince Cable. Il n'y avait, dit-il, rien d'autre à ajouter.
Rien à ajouter. Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Il ne faut pas parler de remaniement, c'est selon l'expression du chef de l'État un réaménagement au sein de l'équipe gouvernementale qui sera annoncé dans les minutes, les heures ou les jours qui viennent. En attendant, Christophe Castaner, élu délégué général de La République En Marche, reste porte-parole du gouvernement. Le Front National porte plainte contre la Société Générale et Marine Le Pen contre HSBC. Plusieurs comptes du parti ont en effet été clôturés. La Société Générale assure que sa décision est de nature exclusivement bancaire, sans aucune considération politique. Mais la présidente du Front National n'hésite pas à parler d'une fatwa bancaire. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Aurélie.
Christophe Castaner, porte-parole donc du gouvernement, toujours. Déclare « Il est normal que le FN puisse avoir une solution bancaire, comme tous les Français. Cette solution existe. » Existe-t-elle bien ?
Oui, bien sûr, le FN bénéficie actuellement de ce qu'on appelle un droit au compte en passant par la Banque de France. Toute la question est de savoir pourquoi une banque tout à coup refuse de gérer des comptes d'un parti politique et de les clôturer, d'où cette idée d'une banque de la démocratie née par dans la tête de François Bayrou au mois de juin avant d'être débarqué du gouvernement, mais c'est un projet que l'exécutif porterait toujours, mais qu'il y a 6 mois, le Conseil d'État avait critiqué. Une banque de la démocratie, une banque publique qui aiderait tout citoyen qui souhaite être et être candidat, c'est inutile, autant passer par les établissements de crédit privés comme aujourd'hui. Voilà en substance l'avis que le Conseil avait formulé. Sauf que de très nombreuses banques privées refusent de financer la vie politique française. Pourquoi ? Eh bien parce que tout établissement a l'obligation de lutter contre le blanchiment. Et la Fédération française bancaire l'a déjà dit à plusieurs reprises, un responsable politique ou un parti politique, c'est un client sensible dont les flux financiers demandent plus d'attention et donc qui coûte plus cher. Un argument qui stupéfait l'ancien parlementaire René Dosière.
Je ne pense pas que ça soit sur les partis politiques au vu et au su de tout le monde qu'on a les plus grands risques de blanchiment, hein, d'argent. L'argument me paraît un peu curieux. Bon, aucun motif là n'est donné, mais on voit bien comment, si vous voulez, une banque pourrait étrangler enfin un parti politique. Donc, même s'il s'agit du Front National, ben, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas accès à un financement bancaire.
Et ce serait de plus en plus fréquent. Les élus se plaignent de la difficulté d'être financés, aidés, accompagnés par les banques privées. Le sénateur communiste Éric Bocquet met ça sur le compte d'un climat de défiance, d'un climat anti-élu. Lui-même, candidat aux récentes élections sénatoriales de septembre, il n'a pas pu emprunter ne serait-ce que 29 000 euros à sa banque, le Crédit Agricole, pas même ensuite à la Banque Postale. Idem pour un autre sénateur d'une autre sensibilité politique, le républicain Philippe Dominati. Lui, c'est la Société Générale, comme pour le Front National, qui a refusé de le soutenir. D'où la nécessité, disent tous ces élus, d'une banque de la démocratie qui fait aujourd'hui l'unanimité des partis politiques.
Ludovic Piétenu. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une apparition au congrès de l'Association des maires de France ce matin. Jean-Michel Blanquer est venu assister à la présentation d'une étude sur les rythmes scolaires commandée par l'AMF. Et les chiffres sont impressionnants, Hakim Kasmi. Plus de 80% des communes vont passer à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine.
Dans 83% des cas, ce retour massif à la semaine de 4 jours est lié à la volonté des parents. Mais la fatigue des enfants et le coût élevé des activités périscolaires expliquent aussi ce retournement, d'autant que 130 000 emplois aidés ont été supprimés dans l'éducation à la rentrée. Agnès Lebrun, vice-présidente de l'AMF en charge des questions d'éducation.
Ça a été d'autant plus brutal et mal perçu que beaucoup de ces contrats aidés, c'était véritablement des amortisseurs sociaux et des tremplins aussi, notamment pour des personnes sans qualification. C'était une erreur d'amalgamer contrats aidés sur le plan marchand, secteur non marchand, collectivités et associations.
Malgré ce plébiscite, pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, ce n'est pas la mort programmée de la semaine à 5 jours. Rappelons qu'en juin, le ministre avait donné le choix aux communes par décret. Pour compenser la fin des activités périscolaires dans les communes qui reviendront à 4 jours, il va mettre en place très prochainement le plan mercredi, car il entend maintenir ces activités périscolaires qui sont souvent une opportunité, notamment pour les familles les plus modestes.
Nous allons travailler ensemble, c'est-à-dire avec les communes de France, avec l'ensemble des partenaires du monde associatif en particulier, l'ensemble des ministères concernés, je pense notamment à la culture et au sport, pour que nous ayons une offre commune affichée dans chaque commune qui le souhaitera sur les activités périscolaires possibles mercredi, que la commune ait choisi 4 jours ou 4 jours et demi. Donc ce sera dans les deux cas une explicitation de la richesse des activités offertes aux enfants le mercredi.
Pour financer ce plan, le ministère s'appuiera sur le fonds de soutien mis en place au début de la réforme des rythmes scolaires.
Des salariés d'Engie ont manifesté cet après-midi devant le tribunal de Nanterre. Ils se sont réunis à l'appel de tous les syndicats, juste avant une audience portant sur la délocalisation d'une partie des activités relations clientèle. Les syndicats d'Engie accusent la direction de vouloir pratiquer en catimini du dumping social, Catherine Pétillon.
Oui, car ils estiment que d'ici la fin de l'année, près de 1200 emplois en centre d'appel auront été délocalisés vers des pays à bas ou très bas coûts comme le Maroc, le Cameroun ou l'île Maurice. Patricia Chastan de la CFE-CGC est représentante de l'intersyndicale.
Pour la direction, le principal attrait, c'est de faire des économies à très court terme. Un conseiller marocain va prester pour 60 centimes la seconde et en France, un prestataire national preste pour 1,60 euros. Nous avons un président de la République qui lutte contre le dumping social et nous avons un employeur Engie dont l'État est majoritaire qui pratique de la délocalisation et du dumping social. C'est inacceptable.
Et pour obtenir les données économiques et sociales liées à ces délocalisations, les syndicats ont dû assigner Engie en référé une absence de dialogue social inadaptée à l'enjeu, estime leur avocat Rudy Wakrat.
Il n'y a pas que les salariés qui sont impactés, il y a aussi les clients d'Engie, parce qu'on va transférer leurs données personnelles sur des centres d'appel à l'étranger. Il y a évidemment le personnel d'Engie qui va devoir gérer avec un nouveau personnel qui se trouve dans d'autres pays et tous les sous-traitants, disparition des emplois.
De son côté, la direction d'Engie répète qu'il s'agit d'une expérimentation. La situation a par ailleurs trouvé un écho politique. Des députés avaient fait le déplacement, comme le PS Régis Huenico ou les élus France Insoumise, Muriel Rissiguier ou François Ruffin.
Évidemment, on se pose la question là de que fait l'État ? Que fait l'État quand il y a un milliard, il me semble, versé aux actionnaires en dividendes ? Quand il y a la suppression de centaines, voire de milliers d'emplois sur le territoire, que fait l'État quand Engie est pris la main dans le pot de confiture des Paradise Papers ? Il y a quand même des leviers d'action sur ça, quoi.
Alors, interpellé cet après-midi à l'Assemblée par le député France Insoumise Hugo Bernalicis, le secrétaire d'État Benjamin Griveaux a lui repris les arguments avancés par la direction d'Engie, à savoir une volonté des sous-traitants et une adaptation au marché de l'énergie, mais assure suivre de près le dossier.
Catherine Pétillon, le prix Interallié récompense Jean-René Van der Pletsen pour La nostalgie de l'honneur, paru chez Grasset, un essai consacré à son grand-père compagnon de la Libération. Le temps sera couvert demain sur le quart nord-ouest du pays. Ailleurs, le ciel sera souvent voilé. Les températures progressent entre 5 et 15 degrés le matin, 12 à 16 sur la moitié nord l'après-midi, 15 à 21 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.